Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de voixpoétiques.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où les mots vont devenir des ponts entre l'intime et l'universel, où la poésie ne sera pas seulement une forme d'expression, mais une manière d'habiter le monde. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une exploration profonde d'un poème qui m'habite particulièrement. Un texte que j'ai écrit et qui porte simplement le titre « Cœur ». Ce poème est né d'une contemplation sur la nature paradoxale de la tristesse humaine. Cette émotion qui nous isole tout en nous connectant à l'essence même de notre humanité. En le relisant, je réalise qu'il contient en lui tout un chemin initiatique, une traversée qui mène de l'obscurité vers une forme de lumière intérieure. Non pas en niant la tristesse, mais en l'accueillant comme une partie intégrante de notre voyage existentiel. Avant de plonger dans cette méditation poétique, permettez-moi de vous lire ce texte dans son intégralité, de laisser d'abord les mots résonner dans leur simplicité première, avant d'en explorer les strates de sens et les échos philosophiques. Cœur triste ne perçoit les autres que derrière un rideau de pluie, laissant la solitude devenir sa meilleure amie. L'orage gronde, une mer d'émotions déferle sur le sable. Cœur triste préserve la pureté, calme et serein, respire les bonheurs faisant ton chemin. Il s'en tient. Où seras-tu demain? Ici réside la magie du destin. Cœur triste, si tu fermes les yeux, les pierres ne sauraient entraver ton pas gracieux. Inspire, expire, le souffle te comble, te nourrit à l'infini. Le silence lentement t'entoure. Quand tu le ressentiras, il te réconfortera. Puis jamais ne disparaîtra. Mon cœur, cet amour est à toi. Il est ta nature, ta voix. Celle que l'univers accorde harmonieusement, sculptant la beauté de ton existence éternellement. Ce poème s'ouvre sur une apostrophe directe, cœur triste. Cette adresse n'est pas une condamnation, mais une reconnaissance. En nommant le cœur triste, je ne cherche pas à le figer dans cet état, mais plutôt à établir une sorte de dialogue avec cette partie de nous-mêmes que nous avons tendance à fuir ou à nier. Il y a dans cette apostrophe répétée une forme de tendresse. Comme on s'adresserait à un enfant blessé qu'on cherche à consoler sans pour autant minimiser sa douleur. La répétition de cœur triste au début de chaque strophe, excepté la dernière, crée une structure litanique qui évoque les prières anciennes, les mantras de guérison. Cette répétition n'est pas redondance, mais approfondissement. À chaque invocation, nous pénétrons plus profondément dans la nature de cette tristesse. Nous la comprenons un peu mieux, nous l'apprivoisons. Ne perçoit les autres que derrière un rideau de pluie. Cette image inaugurale établit immédiatement la problématique centrale du poème. Comment la tristesse altère notre perception du monde et des autres? Le rideau de pluie est une métaphore particulièrement riche. La pluie, dans son ambivalence symbolique, représente à la fois les larmes et la purification, la mélancolie et le renouveau. Ce rideau n'est pas un mur opaque, mais un filtre translucide. Les autres restent visibles, mais déformés, flous, inaccessibles, dans leur netteté première. C'est exactement ainsi que la tristesse modifie notre rapport au monde. Elle ne nous coupe pas totalement des autres, mais elle interpose entre eux et nous cette distance liquide, mouvante, qui rend la connexion authentique difficile. J'ai choisi cette image parce qu'elle contient en elle-même sa propre résolution. Un rideau de pluie est temporaire. Il finira par passer. La pluie elle-même, dans son cycle naturel, évoque la transformation perpétuelle, le passage d'un état à un autre. Laissant la solitude devenir sa meilleure amie. Ici se trouve l'un des paradoxes centraux de l'expérience humaine de la tristesse. Le cœur triste, percevant les autres à travers ce filtre déformant, se replie naturellement vers la solitude. Mais ce repli n'est pas présenté comme une défaite. Au contraire, la solitude devient une amie. Elle est personnifiée, humanisée, transformée en présence plutôt qu'en absence. Cette amitié avec la solitude n'est pas une résignation, mais une forme de sagesse. Dans la tradition contemplative, qu'elle soit occidentale ou orientale, la solitude choisie est acceptée, et acceptée devient un espace de transformation intérieure. Elle est le creuset où s'opère l'alchimie de l'âme. En faisant de la solitude une amie, le cœur triste transforme ce qui pourrait être un isolement mortifère en une retraite fertile. L'orage gronde, une mer d'émotions déferle sur le sable. Cette ligne clôt la première strophe en intensifiant l'imagerie météorologique et aquatique. L'orage qui gronde évoque le tumulte intérieur, les conflits non résolus, les tensions qui précèdent la libération. C'est le moment de crise au sens étymologique du terme. Le moment de décision, de basculement possible. La mer d'émotions qui déferle sur le sable introduit une nouvelle dimension, celle du rivage, de la limite entre deux mondes. Le sable représente notre conscience, notre terrain intérieur sur lequel viennent s'échouer les vagues émotionnelles. Cette image suggère un mouvement cyclique, répétitif, mais aussi purificateur. Cette vague qui déferle laisse quelque chose et emporte quelque chose, modifiant imperceptiblement le paysage intérieur. La deuxième strophe marque un tournant décisif dans le poème. L'injonction préserve la pureté, introduit une dimension éthique et spirituelle à la fois. Il ne s'agit plus seulement de constater la tristesse, mais d'agir en son sein, de maintenir quelque chose d'intact malgré la tempête émotionnelle. Cette pureté n'est pas une pureté morale au sens restrictif du terme, mais plutôt une authenticité, une fidélité à son essence profonde. Même dans la tristesse, quelque chose en nous reste inaltérable. Et c'est cette part qu'il s'agit de préserver. C'est ce que les mystiques appellent parfois le fond de l'âme, ce noyau irréductible qui ne peut être atteint par les vicissitudes de l'existence. Calme et serein. Ces deux adjectifs, placés après l'injonction de préserver la pureté, dessinent un espace de paix au cœur même de la tourmente. C'est l'œil du cyclone. Ce lieu paradoxal où règne le calme alors que tout autour fait rage la tempête. Cette image suggère que la sérénité n'est pas l'absence de troubles, mais la capacité à trouver en soi un centre immobile. Un point d'ancrage qui reste stable malgré les turbulences extérieures. Cette sérénité n'est pas passive, elle est le fruit d'un travail intérieur, d'une discipline de l'esprit et du cœur. Elle requiert une forme de détachement, non pas au sens d'indifférence, mais au sens d'une prise de distance qui permet de ne pas être entièrement submergé par les émotions. Respire les bonheurs faisant ton chemin. Cette ligne introduit une pratique concrète, presque méditative. Respirer les bonheurs, c'est les incorporer, les faire sien, au niveau le plus fondamental de l'être. La respiration est l'acte vital par excellence, celui qui nous relie constamment au monde, qui établit un échange perpétuel entre l'intérieur et l'extérieur. Les bonheurs ne sont pas présentés comme des événements extraordinaires, mais comme des éléments du chemin quotidien. Ils sont là, présents, mais demandent une attention particulière pour être perçus et intégrés. Cette idée rejoint la pratique de la gratitude, cette discipline qui consiste à reconnaître et à accueillir les petites joies qui parsèment notre existence, même dans les moments difficiles. Où seras-tu demain ? Ici réside la magie du destin. Ces deux lignes introduisent la dimension temporelle et la question du devenir. La question « Où seras-tu demain ?» n'attend pas de réponse précise. Elle ouvre plutôt sur l'incertitude fondamentale de l'existence, sur l'impossibilité de connaître l'avenir. Mais cette incertitude ne doit pas être une source d'angoisse. Au contraire, elle est présentée comme la magie du destin. Le mot « magie » transforme l'inconnu en merveilleux, l'incertitude en possibilité infinie. Le destin n'est plus une fatalité écrasante, mais un mystère enchanteur, une sorte d'aventure ouverte. Cette perspective rejoint la notion de foi en la vie, chère aux existentialistes. Non pas une foi religieuse nécessairement, mais une confiance fondamentale dans le processus même de l'existence. Dans sa capacité à nous surprendre, à nous transformer, à nous mener vers des rivages insoupçonnés. La troisième strophe s'ouvre sur une proposition paradoxale. Si tu fermes les yeux, les pierres ne sauraient entraver ton pas gracieux. Fermer les yeux, c'est traditionnellement s'exposer aux obstacles, risquer de trébucher. Mais ici, c'est l'inverse qui se produit. En fermant les yeux, on accède à une autre forme de vision. Une vision, somme toute, intérieure, qui permet de naviguer avec grâce malgré les obstacles. Pour moi, cela évoque la confiance du somnambule, cette capacité à se mouvoir dans l'obscurité guidée par une intelligence plus profonde que la conscience ordinaire. Les pierres représentent les difficultés concrètes, les obstacles matériels de l'existence, mais quand on marche guidé par cette vision intérieure, ces obstacles perdent leur pouvoir d'entrave. Le pas gracieux suggère une élégance naturelle, une fluidité dans le mouvement, qui ne tient pas de l'évitement des obstacles, mais de la capacité à danser avec eux, à les intégrer dans notre chorégraphie existentielle. Inspire, expire, le souffle te comble, te nourrit à l'infini. Ici se trouve le thème de la respiration, mais approfondi, sacralisé. L'acte de respirer devient une pratique spirituelle, une sorte de forme de nourriture qui ne s'épuise jamais. Le souffle est présenté comme infini, inépuisable, toujours disponible. Cette insistance sur la respiration, bien évidemment, n'est pas anodine. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le souffle est associé à l'esprit, à l'âme, à la force vitale. En hébreu, en grec, en sanskrit, le même mot désigne souvent le souffle et l'esprit. Respirer consciemment, c'est donc se reconnecter à cette dimension spirituelle de l'existence. Le fait que le souffle comble suggère qu'il remplit un vide, qu'il apporte une forme de plénitude là où il y avait un manque. La tristesse crée souvent cette sensation de vide intérieur et le souffle conscient vient combler ce vide, non pas en le niant, mais en l'habitant différemment. Le silence lentement t'entoure, quand tu le ressentiras, il te réconfortera, puis jamais ne disparaîtra. Ces quelques lignes introduisent le silence comme une présence active, presque personnifiée. Le silence n'est pas absence de bruit, mais présence d'une qualité particulière d'être. L'adverbe « lentement » suggère un processus graduel, une approche délicate. Le silence ne s'impose pas brutalement, mais s'installe progressivement, comme une sorte de brume bienfaisante. Il faut du temps pour que le silence devienne perceptible, pour qu'on puisse le ressentir vraiment. Une fois ressenti, le silence devient source de réconfort. Il n'est plus vide, mais plein. Plein d'une présence apaisante, qui, une fois découverte, devient permanente. Jamais ne disparaîtra. Cette permanence du silence découvert évoque l'expérience mystique de la découverte d'une dimension de l'être qui était toujours là, mais qu'on n'avait jamais perçue auparavant. Le silence dont il est question ici n'est pas le silence extérieur, qui peut être rompu à tout moment, mais le silence intérieur. Cette qualité de présence à soi-même qui persiste même au milieu du bruit du monde. C'est ce que les traditions contemplatives appellent parfois le silence du cœur. Cet espace de paix qui peut coexister avec l'agitation extérieure. La transformation finale de cœur triste à mon cœur est la symbolique de la dernière strophe qui marque, cette fois-ci, une transformation radicale. L'apostrophe change. Ce n'est plus cœur triste, mais mon cœur. Cette modification, qui peut paraître simple, est en réalité profondément significative pour moi. Le cœur n'est plus défini par sa tristesse, il est reconnu dans sa totalité, réapproprié, réintégré. Ce passage de la troisième personne, le cœur triste, à la première personne, mon cœur, marque aussi une réconciliation, une réunification. Le dialogue devient reconnaissance, acceptation, amour. Le cœur, qui était observé de l'extérieur, apostrophé comme un autre, redevient partie intégrante de soi. Cet amour est à toi, il est ta nature, ta voix. Ces lignes révèlent ce qui était caché depuis le début. L'amour comme essence fondamentale du cœur, même du cœur triste. La tristesse n'était qu'un voile temporaire sur cette nature profonde qui est amour. Cet amour n'est pas quelque chose à acquérir, à mériter ou à conquérir. Il est déjà là, il appartient au cœur. Il constitue sa nature même. La voie évoquée ici suggère à la fois un chemin et une méthode, une direction et une manière d'être. L'amour n'est pas seulement le but, mais aussi le moyen. Pas seulement la destination, mais c'est aussi le voyage. Celle que l'univers accorde harmonieusement. Sur cette ligne, j'élargis soudainement la perspective, et consciemment. Nous passons ici de l'intime à l'universel, du personnel au cosmique. La voix du cœur n'est pas isolée, elle participe d'une harmonie bien plus vaste qu'elle. Elle est accordée à l'univers lui-même. Le verbe « accorder » a ici une résonance musicale, comme on accorde un instrument. L'univers accorde le cœur à sa fréquence fondamentale, qui est l'amour. Cette image me suggère que notre nature profonde est en résonance avec l'ordre cosmique tout entier, que nous participons d'une symphonie universelle. Sculptant la beauté de ton existence éternellement, ici se clôt le poème sur cette image de sculpture éternelle. L'existence est présentée comme une œuvre d'art en perpétuelle création, sculptée par cette force d'amour qui est notre nature profonde. Le choix du verbe « sculpter » n'est pas anodin. Sculpter, c'est révéler la forme qui était déjà présente dans la matière, c'est enlever le superflu pour faire apparaître l'essentiel. Cette métaphore suggère que la beauté de notre existence n'est pas quelque chose qu'on ajoute, mais quelque chose qu'on révèle, qu'on dégage progressivement. L'adverbe « éternellement » transcende le temps linéaire. Il ne s'agit pas d'une durée infinie, mais d'une qualité d'être qui échappe au temps, qui participe de l'éternel présent. La beauté dont il est question n'est pas soumise à l'usure du temps, elle se renouvelle perpétuellement dans l'instant présent. Si nous prenons maintenant un petit peu de recul pour considérer l'architecture d'ensemble du poème, nous découvrons un véritable parcours initiatique. Les quatre strophes dessinent un mouvement en quatre temps qui évoque les grandes structures initiatiques traditionnelles. La première strophe est le temps de la descente, de la confrontation avec l'obscurité. Le cœur triste est reconnu dans sa souffrance, dans son isolement, dans sa tempête intérieure. C'est la négrido alchimique, l'œuvre au noir, le moment nécessaire de la décomposition avant la transformation. La deuxième strophe amorce le retournement. C'est le temps de la purification, la préservation de l'essentiel. Le cœur triste apprend à respirer, à s'ouvrir au bonheur du chemin, à faire confiance au mystère du destin. C'est l'albédo, l'œuvre au blanc, le processus de clarification et de purification. La troisième strophe approfondit la transformation intérieure. Les yeux fermés, guidés par une vision intérieure, nourris par un souffle infini, entourés par le silence réconfortant. Le cœur découvre des ressources insoupçonnées. C'est la citrinitas, l'œuvre au jaune, l'illumination progressive, la découverte de la lumière intérieure. Et enfin, la quatrième strophe accomplit la transformation. Le cœur n'est plus triste, mais reconnu dans sa totalité. Réuni avec sa nature profonde, qui est amour, accordé à l'harmonie universelle. C'est le rubédo, l'œuvre au rouge, l'accomplissement, la réalisation de l'œuvre. Ce parcours n'est pas seulement décrit, il est performé par le poème lui-même. La lecture du poème devient une pratique, une méditation active qui guide le lecteur à travers ses différentes étapes. Les apostrophes répétées créent un effet hypnotique, presque mantrique, qui induit un état de conscience modifié, propice à la transformation intérieure. La poésie révèle ici sa dimension thérapeutique, au sens étymologique du terme, therapeia, le soin, le service, l'attention. Elle ne se contente pas de décrire la tristesse ou de la déplorer, elle l'accompagne, la traverse, la transforme. Elle opère une alchimie verbale qui transmute la matière brute de la souffrance en or spirituel. Cette dimension transformatrice de la poésie n'est pas nouvelle. Elle est présente dans les hymnes orphiques, dans la poésie soufie, dans les psaumes, dans toutes les traditions où la parole poétique est comprise comme une force agissante, capable de modifier la réalité intérieure et peut-être même extérieure. Il y a un paradoxe fondamental, néanmoins, dans ce poème. C'est la tristesse elle-même qui devient le terreau de la transformation. Sans la tristesse initiale, le parcours n'aurait pas lieu. La tristesse n'est donc pas l'ennemi à combattre, mais la matière première de l'œuvre alchimique. Cette vision rejoint une intuition profonde présente dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. L'idée que la souffrance, correctement traversée et comprise, devient une source de sagesse et de compassion. Le bouddhisme parle de la boue qui nourrit le lotus, le christianisme de la passion qui précède la résurrection, la psychologie des profondeurs de la descente nécessaire aux enfers avant la remontée vers la lumière. La tristesse du cœur devient aussi une porte, un passage, une initiation. Elle n'est plus obstacle, mais c'est une opportunité. Non plus fermeture, mais ouverture vers une dimension plus profonde de l'être. C'est ce que j'ai voulu capturer dans ce poème. Cette alchimie subtile par laquelle la tristesse, pleinement accueillie et traversée, se transmute en amour et en beauté. Bien que ce poème soit né de mon expérience personnelle, il touche à quelque chose, finalement, d'universel. Nous avons tous connu ces moments où le cœur est triste, où le monde semble voilé, où la solitude devient notre seule compagne. Et nous avons tous, je crois, cette capacité de transformation, cette possibilité de transmuter notre tristesse en sagesse, notre isolement en connexion plus profonde. Le tu du poème crée cette universalité. En m'adressant au cœur triste, je m'adresse à mon propre cœur, mais aussi au cœur de chaque lecteur, à cette part de nous qui connaît la tristesse et cherche la voie de la transformation. Le poème devient ainsi un miroir où chacun peut reconnaître sa propre expérience. Une sorte de carte pour naviguer dans les territoires obscurs de l'âme, finalement. La dimension sonore de mon poème joue un rôle crucial dans son effet transformateur. Les assonances et les allitérations créent une trame sonore qui porte le sens au-delà des mots. Le rythme, avec ses accélérations et ses ralentissements, mime le mouvement même de la transformation intérieure. Les vers courts alternent avec les vers plus longs, créant une respiration, un souffle qui traverse le poème. Cette alternance n'est pas aléatoire, elle suit le mouvement émotionnel du texte, resserrement dans les moments d'intensité et expansion dans les moments d'ouverture. La musicalité du poème agit directement sur le corps du lecteur, sur son système nerveux, induisant des états physiologiques qui favorisent la réceptivité et la transformation. C'est ce que les anciens appelaient l'incarnation du verbe, cette capacité de la parole poétique à s'inscrire dans la chair, à modifier l'être dans sa totalité psychophysique. Le poème joue constamment entre deux conceptions du temps. D'un côté, il y a le temps linéaire de la transformation. On part de la tristesse pour arriver à l'amour. On suit un parcours qui a un début et une fin. De l'autre, il y a le temps cyclique, suggéré par les images de la mer, de la respiration, du silence, qui jamais ne disparaîtra. Et cette double temporalité reflète la nature même de l'expérience spirituelle. Nous progressons, nous nous transformons, mais en même temps, nous revenons toujours au même point, enrichi par le voyage. La spirale serait peut-être l'image la plus juste. Nous tournons, mais en montant, nous repassons par les mêmes points, mais à un niveau différent. Quand je dis éternellement, ce éternellement final transcende ces deux temporalités pour pointer vers un troisième temps, le temps de l'éternel présent où la beauté se sculpte perpétuellement dans l'instant qui ne cesse de se renouveler. Ce poème cœur représente pour moi l'essence même de ce que j'appelle la voix poétique. Il ne s'agit pas seulement d'écrire ou de lire de la poésie, mais de vivre poétiquement, c'est-à-dire de percevoir et d'habiter le monde avec cette sensibilité particulière qui transforme chaque expérience, même douloureuse, en occasion de beauté et de sens. La voix poétique n'évite bien évidemment pas la souffrance, mais elle la traverse. Elle ne nie pas l'obscurité, elle y cherche la lumière cachée, et elle ne fuit pas la solitude, elle en fait une alliée. Elle transforme le poison en remède, la blessure en ouverture et la chute en envol. Cette approche n'est pas une fuite dans l'imaginaire ou une consolation illusoire. C'est au contraire une confrontation radicale avec le réel dans toute sa complexité, sa douleur et sa beauté. C'est accepter que la vie soit paradoxale, que la joie et la tristesse coexistent, que la lumière naît de l'obscurité. Le cœur triste du début du poème n'a pas disparu à la fin. Il s'est simplement transformé, intégré, unifié avec sa nature profonde. La tristesse reste présente, mais elle n'est plus en soi-même définissante. Elle est devenue une note dans la symphonie plus vaste de l'existence. Une couleur dans le tableau infini de l'être. Cette transformation n'est pas un événement unique, mais c'est finalement un processus perpétuel. Chaque lecture du poème peut réactiver ce processus, nous guider à nouveau à travers ce parcours initiatique. C'est pourquoi la poésie reste et doit rester vivante, pertinente et nécessaire. Elle nous offre ses cartes intérieures, ses guides pour naviguer dans les territoires les plus difficiles de l'expérience humaine. En partageant ce poème et cette méditation avec vous aujourd'hui, j'espère avoir transmis quelque chose de cette magie transformatrice de la parole poétique. Peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront leur propre cœur triste dans ces vers, et peut-être trouveront-ils dans ce parcours une invitation à leur propre transformation. Parce que c'est cela finalement, cette voie poétique, une invitation perpétuelle à la métamorphose. Un rappel constant que nous sommes des êtres en devenir, sculptant perpétuellement la beauté de notre existence dans la matière même de notre vécu, aussi sombre soit-il parfois. Le poème se termine, mais son écho à mes oreilles et à mon âme continue. Le silence qu'il a convoqué reste pour toujours présent, prêt à nous entourer, à nous réconforter et à ne jamais disparaître. L'amour qu'il a révélé, comme notre nature profonde, continue d'œuvrer, sculptant dans l'invisible la beauté de ce que nous sommes vraiment. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette nouvelle exploration d'un de mes poèmes présents sur voixpoétiques.com. Et je vous souhaite que votre propre cœur, qu'il soit triste ou joyeux en ce moment, eh bien, trouve sa voie vers cette beauté éternelle qui est, au fond, sa véritable nature. Que la poésie continue d'éclairer vos chemins, même les plus obscurs, et que le silence bienfaisant vous entoure et vous réconforte, aujourd'hui et pour toujours. C'était David pour le podcast de voixpoétiques.com.